Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre fidélité au programme de Canal Académie. Restez avec nous pour ce nouveau numéro d'Un jour dans l'histoire. Un numéro que j'ai souhaité consacrer à un personnage qui vient très récemment de nous quitter, le général Pierre-Marie Gallois. Il avait 99 ans. Entre autres hommages, je retiendrai celui assez inattendu du site internet Marianne 2 plus exactement, qui salua l'ancien collaborateur de la France libre et de combat, ce combattant au tempérament royaliste qui était un immense pédagogue et un très grand professeur. Initiateur de la force de dissuasion française, stratège de la guerre froide, interlocuteur privilégié de Guy Mollet et du général de Gaulle et qui travailla également avec Marcel Dassault. L'article de Marianne considérait l'ancien général comme, je cite, un maître de la politique étrangère qui pouvait se tromper, mais qui forçait à penser. On continuera à lire ses livres, terminé le journaliste, car il est un très grand penseur de la stratégie de sa génération. Christian Malisse, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous avez lu tous les livres du général Gallois et même bien au-delà, comme nous allons le découvrir au cours de cette émission. Ce n'est pas la première fois que je vous reçois à ce micro, puisque vous étiez venu évoquer la pensée de Raymond Aron en matière politique et stratégique avec Alain Besançon de l'Académie des sciences morales et politiques. Vous avez été élève de Georges-Henri Soutoux, lui-même membre de cette académie, et vous venez de recevoir d'ailleurs un prix pour un colloque que vous avez organisé et dont vous venez de publier les actes. Le titre de ce colloque est le suivant, « Guerre et manœuvre, héritage et renouveau ». C'est un livre paru chez Economica. Alors, je ne vous reçois pas pour parler de cet ouvrage, mais bien pour évoquer cette figure intellectuelle et on va dire cet homme d'action que fut le général Gallois, Pierre-Marie Gallois, « Géopolitique, histoire et stratégie ». Tel est le titre de votre ouvrage paru chez L'Âge d'Homme l'année passée. Alors comment, Christian Malisse, vous êtes-vous approprié ce sujet d'étude? Comment en êtes-vous arrivé, au fond, à vous pencher sur la vie et l'œuvre de ce personnage, Pierre-Marie Gallois?
Tout d'abord, Christophe Dickès, merci infiniment de me recevoir sur votre antenne. J'en suis extrêmement heureux. Un tout petit peu de biographie. Il se trouve que j'ai eu l'idée de travailler sur la vie et l'œuvre de Pierre Gallois, car après avoir écrit la biographie intellectuelle de Raymond Aron en tant que contributeur au débat stratégique français, il m'a semblé que si je voulais faire un travail plus complet sur un domaine plus large, c'est-à-dire les évolutions de la pensée stratégique et des débats sur la doctrine stratégique, par exemple le nucléaire, en France, des années 30 aux années 1990, ce qui était vraiment mon domaine d'intérêt, il fallait que je considère l'autre figure, le frère ennemi de Raymond Aron, à savoir Pierre Gallois. Pierre Gallois et Raymond Aron ont incarné deux pôles de la pensée stratégique française et se sont notamment affrontés sur la doctrine gaullienne de la dissuasion nucléaire au début des années 60. On sera peut-être amené à en parler. Pour conduire à bien ce projet, je me souviens avoir d'abord rencontré Pierre Gallois immédiatement après la première guerre du Golfe, à l'occasion d'une conférence où ce qui m'a tout de suite frappé, c'était son sens journalistique de la formule. Un sens qui était d'ailleurs une de ses armes maîtresses en tant que propagateur d'idées, on y reviendra sans doute. Il y avait commencé sa conférence en disant « La guerre du Golfe a été gagnée par 3000 aviateurs ». Et puis ensuite, il a fourni force chiffres à l'appui de cette affirmation. Et puis, au début des années 2000, je suis allé le rencontrer chez lui, dans l'appartement qu'il occupait rue Rembrandt, dans le 8e arrondissement, depuis d'ailleurs une cinquantaine d'années, où il avait reçu énormément de monde du Gotha national et international. On sera amené à y revenir. Et il m'a ouvert immédiatement ses archives. C'était un homme qui avait mené plusieurs vies en une et qui avait tout gardé. Et pour un historien, ceux qui nous écoutent, qui sont historiens, comprendront ce que j'ai pu ressentir en découvrant des cartons et des cartons et des cartons de documents, documents d'état-major des années 50, ouvrages de toutes sortes.
Les sources sont vraiment très importantes et on pourrait même dire qu'elles sont trop importantes. Il y a encore énormément de volumes, de cartons à découvrir.
Alors, il y a
aussi des archives ailleurs.
Alors, les archives gallois se divisent en deux parties. Une partie dont il a fait don au service historique de la Défense, qui se trouve à Vincennes, et qui recouvre sa documentation postérieure à 1962. Mais il a gardé chez lui énormément de documents, soit antérieurs à 1962, et tout particulièrement les documents d'état-major, qui commencent grosso modo en 1937, et qui couvrent en particulier la période tout à fait cruciale où il s'est trouvé à l'OTAN au début des années 50, dans les cabinets ministériels. Et on a là la documentation fondamentale pour comprendre comment est née la dissuasion nucléaire, d'abord dans l'esprit de Pierre Gallois, et puis ensuite comment on peut retracer le parcours jusqu'à la force nucléaire stratégique effective dont la France se dote en 64. Mais il y a aussi, et tout cela devra faire l'objet de publications, de rééditions, des cours, énormément de cours de stratégie ou de géopolitique extrêmement abondants. Il y a beaucoup de travail à venir pour les historiens, y compris sur la partie géopolitique de son œuvre, qui vient plutôt sur les 20-30 dernières années.
Votre livre a une date butoir, alors qui nous laisse un peu sur notre fin, mais vous n'allez pas jusqu'à la fin de ses jours, parce que vous considérez que ces, non pas ses buts, mais ses options géopolitiques et stratégiques changent. Vous allez jusqu'à l'année 94, c'est bien cela ?
Alors, je m'arrête au moment de la publication d'un ouvrage qui s'appelle « Livre noir sur la défense », un ouvrage tout à fait caractéristique du dernier Gallois, je dirais. Le Gallois des 20 dernières années, des 20-30 dernières années, est un stratège très critique vis-à-vis des orientations prises par la politique française de défense et aussi la géopolitique mondiale sous domination américaine. Il publie toutes sortes de livres, dont l'un même s'appelle « Réquisitoire » et ça donne le ton des nombreux essais de géopolitique qu'il publie à cette époque-là. Si je me suis arrêté en 1994, c'est pour deux raisons. Je dirais positivement parce que je couvrais une période qui avait une très très forte unité depuis les années 30, c'est-à-dire la période qui a précédé ce qui a été pour lui le traumatisme créateur de sa vocation stratégique, donc 1940. Et puis, on terminait le cycle nucléaire en 1990, mais je suis allé jusqu'à ce que la politique française mute avec la publication du livre blanc sous la défense. Et puis, une raison entre guillemets négative, c'est qu'il me... Compte tenu d'un certain nombre d'épisodes comme l'affaire des pilotes en Bosnie à laquelle Pierre Gallois a été associé et des polémiques que cette affaire avait suscitées, il m'a paru difficile de faire un travail d'historien serein alors qu'il m'aurait fallu démêler le vrai du faux dans toutes sortes de témoignages encore pleins de passion. Et je me suis dit que voilà, faire un travail encore une fois serein, détaché des passions et des polémiques, Pierre Gallois s'est lancé à corps perdu dans toutes sortes de polémiques sur la fin de sa vie. C'était une tradition chez lui, mais il a été encore plus offensif sur les dernières années de sa vie, n'était pas souhaitable pour faire un portrait serein du personnage.
Alors, c'est très important ce que vous dites, parce que le Canal Académie, et surtout dans l'émission Un jour dans l'histoire, on souhaite parler du travail de l'historien, du travail des sources. Dans les sources, vous n'avez pas évoqué un point qui est pourtant très important, ce sont les multiples entretiens que vous avez pu avoir avec lui. Et ils ont leur importance, puisque vous racontez énormément d'anecdotes.
Effectivement, j'ai eu cette chance de pouvoir m'entretenir sur un mode entre guillemets professionnel, c'est-à-dire des entretiens un petit peu orientés sur des points précis, disons une trentaine de fois avec le général Gallois, qui m'a toujours reçu
royalement,
avec beaucoup d'humanité, d'urbanité. Alors c'était évidemment une chance, ça me permettait d'avoir un retour immédiat sur des questions ou des hypothèses. D'un point de vue méthodologique, ça m'a permis de bien mesurer aussi les limites de l'histoire orale. Un homme comme le général Gallois, en dépit de sa mémoire absolument prodigieuse, ce qui m'a permis de citer un certain nombre de choses des années 30, par exemple, qu'il m'a rappelé. En dépit de sa mémoire prodigieuse, comme nous tous, a reconstruit et rationalisé sa vie a posteriori. Il m'est arrivé de le prendre en défaut d'oubli ou de reconstruction d'une position du début des années 60, faite en fonction des prises de position postérieures. Je pourrais donner éventuellement des exemples, c'est très curieux. Et puis aussi, même le général Gallois oublie. Donc si vous voulez, c'était un exercice absolument extrêmement utile, y compris dans ses limites.
Mais alors, précisément, il y a des limites dans cette méthodologie. Je retiens aussi l'idée que, au fond, vous avez travaillé sur Raymond Aron, vous avez travaillé sur Pierre Gallois, vous les qualifiez de frères ennemis. En dépit de ces entretiens, vous avez réussi malgré tout à garder le recul de l'historien ? Puisque on peut dire à ce micro que vous avez créé une amitié intellectuelle avec ce personnage qui était un personnage passionnant.
C'est exact. Mais je dois d'ailleurs, je confesserai volontiers que je me suis laissé séduire par le personnage, en tout cas au début. Et c'est vrai qu'avec quelqu'un d'aussi... Alors, c'était aussi quelqu'un qui était quand même d'une intelligence tout à fait supérieure. Donc on était vite enfermé dans une sorte de vision qui était la sienne. En réalité, c'est la confrontation du témoignage oral et des sources, alors celles qui se trouvaient chez lui, les sources qui se trouvaient chez lui, d'autres sources, celles que j'ai pu compulser dans les archives d'état-major à Vincennes, et puis l'historiographie, qui m'a permis d'essayer de prendre un certain recul et de qualifier certains épisodes, de relativiser les propos que lui-même avait pu me tenir, parce que lui-même ignorant d'un certain contexte, pouvait avoir mal compris ce qu'il avait, entre guillemets, lui-même vécu. Par exemple, l'influence qu'il pensait avoir sur Pierre Mendès France, sur le lancement du programme nucléaire militaire à la fin de 1954, je crois avoir montré, en me basant sur les travaux d'autres historiens, notamment Georges Choutou, qu'il avait sans doute surestimé son influence, ou en tout cas mal jugé la nature de l'influence qu'il avait exercée sur le président du Conseil.
Alors, je le dis à nos auditeurs, hein, ce livre, hein, qui est un livre très très important, hein, de plus de 700 pages, n'est en rien un plaidoyer. Ça reste un très très grand livre d'histoire qui fourmille d'anecdotes, de précisions et charpenté par une pensée. On va même dire, nous y reviendrons à la fin, par une forme de spiritualité et de conception même de l'arme nucléaire. Vous vous aventurez sur le terrain, on va le dire, philosophique. Plongeons-nous dans cette vie, même pas dans cette vie, dans ces vie, et rien ne prédispose Pierre-Marie Gallois à devenir ce qu'il deviendra, c'est-à-dire un homme qui s'engage dans le monde militaire.
Oui, il y a une part d'accident et c'est ce qui m'a passionné dans cette biographie. J'ai pensé assez vite à ce que dit Éric Roussel à l'ouverture d'une autre biographie, je ne sais plus, celle de Pompidou peut-être. Il dit « Seuls ceux qui ne sont pas historiens imaginent que les vies s'enchaînent selon une sorte de nécessité mécanique ». Et c'est vrai que d'entrée de jeu, chez Pierre Gallois, on s'aperçoit qu'il était plutôt destiné à une autre carrière. Il aurait très bien pu être architecte, par exemple. Au début des années 30, c'est d'abord un autodidacte, issu d'une famille bourgeoise un petit peu désargentée. Il est passionné par toutes sortes de choses. Il participe à des entreprises de décoration lumineuse de la capitale. Vous savez, la fameuse tour Eiffel lumineuse de Citroën. Eh bien, Gallois participait, posait des ampoules. Hein, c'était une entreprise italienne. Il avait une passion pour l'art qu'il a gardé car il était aussi artiste. C'était un homme qui avait des dons multiples et c'était un aspect de la fascination que le personnage exerçait sur beaucoup de gens. Et puis, c'est en 1935 qu'il a rejoint l'armée de l'air. Pour deux raisons. D'une part, lui-même et son entourage familial le poussaient à essayer de prendre une part active à la guerre qui s'annonçait. Beaucoup de gens imaginaient la guerre avec l'Allemagne probable, voire certaine. Il était pilote civil, il avait une passion pour l'aviation. Et puis, c'était aussi une circonstance, et là on rentre un peu plus dans le domaine de la sociologie, où les jeunes gens issus de bonnes familles bourgeoises plutôt de droite, comme c'était son cas, ne trouvaient pas des situations économiques facilement à cette époque de la crise, et du coup, l'armée, l'administration, l'Empire, le désert, pouvaient exercer leur attrait. Pour Gallois, c'était ça, se battre contre l'Allemagne, l'attrait du Sahara, du désert, il est parti immédiatement en Afrique du Nord, ont déterminé ce choix de manière semi-accidentelle.
Mais ça reste un jeune garçon indécis.
Au début, il a trop de dons, et c'est ce qu'on sent dans les toutes premières années de son existence, il se disperse, ce qui est quelque chose d'assez juvénile. Il réussira à forcer la chose dans le reste de sa vie en faisant tout à la fois. Et en dormant peu, il a été aussi bien
artiste
que universitaire à sa façon, homme d'action, journaliste. Il a eu trois ou quatre métiers de manière plus ou moins concomitante. Il a beaucoup pris sur son sommeil, souvent. Mais effectivement, au début, ça se traduit par une certaine dispersion.
Christian Malice, nous nous retrouvons dans un instant.
La bibliophilie est à l'honneur sur Canal Académie. En compagnie de notre bibliologue Bertrand Gallimard-Flavigny, vous découvrirez des ouvrages et manuscrits rares présentés avec esprit dans l'émission Au fil des pages. Le bibliologue, une rubrique de Canal Académie, à écouter et télécharger sur canalacademie.com.
Je reçois Christian Malice, auteur d'une biographie intellectuelle de Pierre-Marie Gallois. Pierre-Marie Gallois, géopolitique, histoire, stratégie, un ouvrage paru chez L'Âge d'Homme. Nous avons évoqué, Christian Malice, les années de jeunesse. Vous disiez tout à l'heure, au début de l'émission, qu'il a été très marqué, évidemment, qui ne le serait pas, par l'année 40. Et l'année 40, en quelque sorte, détermine toute une vie, pour lui en tous les cas, le militaire qu'il est. Avant d'en venir à 1940, peut-être commençons par 1939. Où se trouve-t-il en 1939 ?
Alors, il se trouve en Afrique du Nord. C'est un jeune lieutenant de l'armée de l'air qui a déjà commencé à regimber contre le système. C'est un aspect très important. Il sera toute sa vie très attaché, enfin, en rébellion contre ce qui a causé la défaite de nos armes, qui pour lui a été avant tout la sclérose intellectuelle et doctrinale de l'armée française, dont il a pu mesurer la réalité par une expérience qu'il a tentée après une bataille de Guadalajara pendant la guerre d'Espagne. Il a lu, alors c'est très caractéristique du personnage, il a lu chez un chroniqueur militaire suisse, Eddie Bauer, qui écrivait dans la Revue Militaire Suisse, car il y a une grande tradition de chroniqueurs militaires chez les Suisses, que les Italiens avaient testé l'appui de bombardement par des avions de colonnes militaires. Et il s'est dit quand même, dans notre doctrine française, rien ne prévoit ce type d'usage de tactique de l'arme aérienne. Je vais le tester avec une demi-brigade de légion étrangère. Il avait un ami dans la légion. Ils ont procédé à un exercice simulé. Et cette initiative n'étant pas prévue dans la doctrine, il a eu des ennuis. Ça aurait pu mal tourner, puis finalement, comme il était quand même bien noté, bien vu, le commandement a un petit peu passé l'éponge. Mais ça dénote à la fois cette situation de sclérose intellectuelle, puisque après tout, ce sont les Stuka appuyant les troupes allemandes traversant la Meuse qui sont la cause directe, une des causes directes de la percée de mai 40. Et aussi, ça dénote ce modernisme militaire, ce goût de l'innovation technique et opérationnelle qui sera vraiment une marque de fabrique de Pierre Galois. Je voudrais quand même préciser...
Qui est à mettre en contrepoint avec... Vous citez André Beaufre.
Voilà.
Donc André Beaufre, pour nos auditeurs, c'était...
André Beaufre était à l'époque capitaine. Il fait partie avec Pierre Galois des grands stratèges français des années 50-60. Il y a ce que j'appelle le sextuor. Il y a Galois, il y a Beaufre, il y a Charles Ayrey, il y a Camille Rougeron, il y a également Raymond Aron. Il est intéressant de constater, c'est que... Par le truchement de la matrice 1940, des gens comme Beaufre, Galois ou Ayrey appartiennent à ce que j'ai appelé une même génération intellectuelle militaire.
Donc cette génération vient en contrepoint, je cite Beaufre, « Nous faisions d'amers examens de conscience, nous portions de sévères jugements sur nos chefs. Notre faute à nous, les subalternes, était d'avoir cru aux réputations, à la discipline intellectuelle poussée jusqu'au conformisme, de n'avoir défendu nos idées que dans les limites de suggestions polies, d'avoir laissé les événements dérouler leur impitoyable logique sans intervenir de façon efficace dans l'armée et dans le pays. » C'est quand on pense à 1940, le constat est véritablement sévère, puisque au fond, il présente une armée sclérosée.
Oui, absolument. Alors ici, je voudrais souligner un élément à la fois sociologique et puis un élément moral, tous deux très importants. On dit souvent que les armées ne se réforment dans la foulée d'une défaite, parce qu'elles sont incitées à le faire. Et il faut bien reconnaître que ce schéma s'applique aussi bien à la France victorieuse de 1919, qui n'est pas capable de concevoir les innovations militaires de la guerre d'après, et s'applique symétriquement à l'Allemagne ou à l'Union soviétique qui conçoivent beaucoup mieux la guerre moderne parce qu'elles sont incitées à le faire du fait de leur défaite, parce que aussi toute une génération d'officiers est renvoyée pour l'Allemagne et l'Union soviétique par la Révolution un petit peu dans les oubliettes et les jeunes gens plus innovants arrivent un petit peu aux commandes. Et puis, moralement, c'est quelque chose de très important. Il me paraît impossible de comprendre le relèvement militaire de la France d'après-guerre car après tout, la diffusion nucléaire, qu'est-ce que c'est sinon une révolution militaire qui a réussi, alors que la révolution du char et de l'avion, la France avait manqué le virage. Elle est due à une force morale. C'est un certain nombre de militaires traumatisés par 1940 qui ont en quelque sorte conclu plus jamais ça. Et cette capacité d'innovation répond à la capacité d'innovation des Français dans le domaine économique, où le facteur moral a été souligné par Richard Cuisel dans un excellent ouvrage sur le redressement économique français après la guerre.
Revenons à Alger, en Afrique du Nord. Il y a des moments intellectuels, vous les définissiez très bien, des moments charnières. Et il y a un moment charnière de la vie de Pierre Galois, ce sont ces fameuses conférences entre mars et juin 1942. Et c'est là où on sent, au fond, à la fois le futur intellectuel, mais également un intellectuel, ce qu'il distingue peut-être d'Aron, qui est en phase avec la réalité du terrain. Est-ce qu'on peut dire ça ?
Alors, c'est amusant et extrêmement intéressant, puisque effectivement, tout à fait à la même époque, mais à Londres, Aron publie des chroniques sur l'Allemagne dans la revue La France Libre. Et au même moment, comme vous venez de le dire, dans les conférences de Casablanca, le jeune Pierre Galois, à la demande de son chef, et pour désennuyer les officiers et les cadres de l'armée de Vichy de cette époque, eh bien, prononce, encore une fois à la demande de sa hiérarchie, des conférences sur l'Allemagne. Ces conférences sont à la fois une sorte de vaste réquisitoire sur l'évolution historique de l'Allemagne et un appel assez vibrant à la résistance qui lui vaudra d'assez graves ennuis puisqu'il manque d'être mis à la porte de l'armée Vichy. Au fond, il est sauvé par l'opération Torche et par le débarquement anglo-américain. Vous avez raison, c'est son premier texte un peu universitaire. Il lit énormément de choses, il lit Edmond Vermeil, il lit des historiens spécialistes de l'Allemagne. Il remonte jusqu'à Luther pour comprendre ce peuple négatif, cette chrétienté manquée, comme aurait dit Peggy. Il en gardera toute sa vie un préjugé extrêmement fort contre l'Allemagne. Dans les années 90, il verra le retour sur la scène européenne de l'Allemagne et son action dans les Balkans comme le germe d'un quatrième Reich. Il sera toujours très dur avec l'Allemagne.
Très bainvillien.
Très bainvillien, ce qui ne l'empêchait pas d'avoir des amitiés avec Franz Josef Strauss. Mais il est un fait que pour lui, il y a une donnée permanente de la géopolitique européenne. L'Allemagne, peuple négatif. L'Allemagne, peuple à vocation impériale ou à tentation impériale dont la France doit se méfier.
Il y a ces conférences, mais il y a surtout après, et là on revient à la chronologie, en été 1943, il part à Londres.
Absolument. Il a fait plusieurs expériences. Il s'est retrouvé officier de liaison auprès de l'Air Transport Command américain. Là, il a pris conscience des causes de la supériorité anglo-saxonne, la civilisation industrielle. Il a été stupéfié de voir comment les Américains, avec leurs avions de transport, enjambaient les continents et avaient la capacité industrielle d'édifier une sorte de civilisation de l'air. Toute chose dont il pensait les Français incapables. Il était vraiment très consterné par le spectacle industriel et militaire de son pays et il le comparait au spectacle anglo-saxon. Il quitte l'Afrique du Nord pour Londres. D'abord, il veut s'engager dans la résistance, dans un réseau. Et puis finalement, la chose ne peut pas se faire. Et il décide alors de rentrer dans les groupes lourds, ce qu'on appelle les groupes lourds. Un épisode peu connu puisque, encore en 1945, certains hiérarques militaires français ignoraient qu'il y avait eu deux groupes de bombardiers lourds constitués uniquement de Français dans les forces aériennes françaises libres. L'Allemagne a été bombardée nuit et jour, en l'occurrence la nuit, par des Français dont faisait partie Pierre Gallois sur des avions quadrimoteurs de fabrication britannique.
Il y a toujours l'homme d'action, puisqu'il va bombarder l'Allemagne, c'est bien cela. Mais il y a toujours à côté le penseur et il cultive tout l'acquis que vous présentiez pour ces fameuses conférences de Casablanca. Eh bien, il va sans cesse l'entretenir tout au long de sa vie.
Oui, et les rencontres qu'il fait à Londres sont absolument décisives. D'une part, il rencontre deux des stratèges les plus intéressants de la Seconde Guerre mondiale. Un Polonais, passé en Allemagne, ancien communiste, du nom de Staro, qui ne s'exprimait qu'en polonais ou en allemand, et qui est un des chroniqueurs de guerre les plus fins et les plus intéressants de la Seconde Guerre mondiale, et qui écrivait dans la revue La France Libre, dont le rédacteur en chef n'était autre que Raymond Aron. Pierre Gallois se forme à l'analyse militaire avec ce Polonais, et il se forme aussi à l'analyse de politique internationale auprès de Raymond Aron, dont il fait la connaissance et dont avec lequel il noue une amitié durable. Durable en tout cas jusqu'à ce qu'elle se brise, on en parlera sans doute tout à l'heure, au début des années 60. Et puis, il faut le souligner, il découvre la géopolitique en lisant dans un lycée français les œuvres de Mackinder, notamment Democratic Ideals and Reality de 1919, et c'est un événement intellectuel fondamental.
Oui. La géopolitique étant au fond une discipline nouvelle, parce que la géopolitique n'est pas à l'origine française, même si, on allait dire, Richelieu fait de la géopolitique comme M. Journin faisait de la prose.
Alors, en tant que discipline, c'est-à-dire marquée par la globalisation du monde et la capacité de l'homme à modifier son milieu plutôt qu'en être complètement déterminé, elle naît effectivement à la fin du 19e siècle, avec le chemin de fer au fond, quand Mackinder découvre ou explique la dialectique des puissances terrestres et des puissances maritimes. Elle naît aussi du côté de l'amiral Mahan, qui est le premier grand théoricien de la puissance maritime du côté des États-Unis. Et il se trouve que Mackinder, qui est donc son père fondateur, écrit à nouveau un article de géopolitique très important en 1943. Les Allemands, de leur côté, discréditent un peu la discipline, car le Troisième Reich l'instrumentalise. Pierre Gallois sera toujours un géopoliticien dans les années 50 et 60, au moment où la discipline tombe dans un certain discrédit, jusqu'à ce qu'elle renaisse au début des années 80. Et il va jouer dans cette renaissance, en tout cas en France, un rôle de premier plan.
Dans sa construction intellectuelle, vous présentez d'ailleurs ce que vous appelez la généalogie d'une pensée stratégique. Vous définissez trois axes dans cette pensée stratégique: la stratégie aérienne, la technicité de la guerre moderne et la bombe atomique. Et ce sont ces trois éléments qui vont, là encore, comme un fil d'Ariane, comme trois fils d'Ariane, au fond, poursuivre son existence.
Oui, effectivement, si l'on prend deux de ces éléments, la technicité. Pierre Gallois se démarque d'un certain nombre d'autres stratèges français, comme par exemple André Beauf ou Raymond Aron, par un goût très prononcé pour l'analyse technique. Il considère que la France a perdu la guerre car elle n'a pas suffisamment été attentive aux transformations que la guerre subit de la part de la technique. La démonstration en est faite pendant la Seconde Guerre mondiale, qui est une guerre où les innovations se sont succédées à un rythme effréné et où la dialectique des innovations a été un élément déterminant de la guerre, les plus créatifs ayant été les Allemands. Pierre Gallois fait un livre, hélas perdu, sur les innovations militaires de l'Allemagne en 1945. La technique aussi, c'est un élément très important, est un moyen peut-être d'éviter le retour des grands carnages hyperboliques. Et ça, c'est cette réalité se concrétise à travers la machine à détruire les machines, comme disait Bernanos, c'est-à-dire la bombe atomique qui peut-être vaccinera l'humanité contre le retour des grands carnages de ce que Aron appelle les guerres hyperboliques, les guerres totales de la Première et la Seconde Guerre mondiale. Gallois n'est pas le premier à comprendre les potentialités de la bombe atomique comme instrument numéro un des guerres futures et aussi comme instrument de la dissuasion, c'est-à-dire de la guerre pour empêcher la guerre ou de l'arme pour empêcher la guerre. Le premier est l'amiral Castex, en octobre 1945. Pierre Galois a publié avant lui un article très intéressant, mais l'article de Castex est plus prophétique. Et c'est en lisant Castex que Galois pousse cette sorte de eureka. Il voit dans l'arme atomique pour la France une sorte de talisman contre le retour de 1940.
Quelle est sa réaction après Hiroshima et Nagasaki ?
Alors, c'est un petit peu ce que je viens de vous dire. Tout d'abord, il est en quelque sorte perplexe. D'abord, il voit dans l'arme atomique, vous avez parlé tout à l'heure de l'importance de la stratégie aérienne dans la généalogie de sa pensée, le couronnement est comme la perfection de la guerre aérienne. Vous savez que la Seconde Guerre mondiale matérialise une partie de la stratégie aérienne qui a été plus ou moins inventée par le général Giulio Douai, un Italien. La stratégie aérienne a deux paradigmes fondamentaux. Soit l'arme aérienne sert à appuyer les forces terrestres, exemple le Stuka appuie les chars et je perce un front, c'est 1940. Ou bien l'arme aérienne sert à bombarder les populations et les centres industriels pour faire plier l'adversaire sur ses arrières et désamorcer, neutraliser sa volonté même de faire la guerre en tapant sur ses ressources. Et c'est le paradigme de l'emploi stratégique de l'arme aérienne. Vous le devinez, Pierre Galois a vécu le paradigme de l'emploi stratégique de l'arme aérienne comme navigateur sur bombardier lourd. Il a bombardé lui-même l'Allemagne. Il est donc très sensible à la puissance de cette forme de guerre et il considère que la perfection en est atteinte avec l'arme atomique. Il faut que je tout de suite préciser pourquoi la perfection. Après tout, Dresde a été balayée en deux jours par des bombardements conventionnels. C'est qu'une arme atomique produit instantanément ce qu'il a fallu 2 jours et 1000 bombardiers pour produire, instantanément avec une bombe et un avion. Et c'est aussi parce que la limite de la guerre aérienne que les Alliés ont livrée contre l'Allemagne, c'est que les Allemands avaient quand même le temps de reconstruire. Ils employaient 1 à 2 millions d'hommes pour reconstruire les aérodromes, reconstruire les pistes, reconstruire les maisons, reconstruire les usines. Et ils ont finalement pu faire la guerre de nombreuses années en dépit des bombardements auxquels ils étaient soumis. Avec l'arme atomique, tout ça est fini et c'est le paradigme même de la guerre qui change.
Parce qu'il y a une rupture. L'arme atomique crée une rupture.
Il y a une rupture que Pierre Galois, qui était avec son goût pour la technique, la science, les mathématiques, a mise sous forme d'un théorème qu'il est difficile de décrire à la radio, mais on peut dire que historiquement, il y a une rupture avec un théorème historique. Le théorème historique, c'est que la supériorité militaire provient de la multiplication du nombre de vecteurs et du nombre d'armes. Si je veux l'emporter pour un adversaire, il faut plus d'hommes, il faut plus de plateformes aériennes ou navales ou terrestres, plus de chars, plus d'avions. C'est comme ça que les Anglo-Saxons l'ont emporté. C'est essentiellement par la quantité sur les Allemands, c'est pas tellement par l'art opérationnel. Avec l'arme atomique, tout ça, c'est terminé. Et c'est donc une histoire séculaire qui disparaît dans le néant. Quelques avions, quelques armes, et vous pouvez mettre potentiellement un adversaire à genoux. Cette révolution est pour lui un choc intellectuel absolument extraordinaire qui répond au choc moral de 1940. Et ces deux chocs vont rentrer en résonance. Il se dit pour que plus jamais la France, qui est déclassée par l'histoire, ne connaisse 1940, il lui faut quelques avions portés de quelques bombes les plus puissantes que l'humanité ait inventées, la bombe atomique.
Ce qui nous amènera aux années 50, Christian Malis, c'est ce que nous allons voir après cette deuxième pause.
Écoutez Canal Academy, la suite de votre programme dans un instant.
Nous entamons la dernière partie de cette émission consacrée à Pierre-Marie Galois. Je reçois Christian Malis, auteur du livre Pierre-Marie Galois, Géopolitique, Histoire, Stratégie, paru chez L'Âge d'Homme. Nous avons laissé nos auditeurs sur le choc psychologique que constituaient Hiroshima et Nagasaki, cette rupture que constitue l'arme atomique, et précisément Pierre-Marie Galois est considéré comme le père de la dissuasion nucléaire. Or, vous le dites, ce sont les premières lignes de votre ouvrage, il y a un paradoxe chez Galois, c'est que au fond, Galois a été associé directement aux affaires, je vous cite, associé directement aux affaires du nucléaire militaire que pendant une quarantaine de mois entre août 1953 et février 1957. C'est au fond très peu. Il a été très peu près du pouvoir. On ne peut pas comparer ce peu de temps avec, au fond, cette influence qui a été une influence réelle.
C'est le paradoxe de sa carrière, c'est aussi le paradoxe de son influence, et ça souligne un problème qui est le problème des gens innovants, le problème des gens comme Gallois, des intellectuels qui ont les idées capables de transformer les forces armées, et le problème de l'accueil que cela pose. Effectivement, Pierre Gallois quitte l'uniforme en tant que général de brigade en 1957. Et le travail de compréhension du nucléaire et de son impact sur la transformation des armées, la défense de l'OTAN contre l'Union soviétique en particulier, s'effectue pour lui sur la période 1953-54, quand il se trouve à l'OTAN avec une mission extrêmement simple. Le général Grunther, qui a pris les commandes de l'OTAN, constate que l'Occident n'est pas du tout en mesure de repousser sur le plan conventionnel une attaque soviétique, en dépit des efforts faits pour relancer, après la guerre de Corée, l'armement de l'Europe et des États-Unis. On est loin du compte, on n'est pas à 30 divisions, les soviétiques sont crédités d'une force de 200 divisions. Mais à ce moment-là arrive l'atome tactique. Grâce à la miniaturisation des charges, il y a un certain nombre de nouveaux vecteurs. Et le général Grunther confie à ce qu'on appelle aujourd'hui une task force, les Hot Colonels, quatre colonels chauds, dont Pierre Gallois, plus deux Américains et un Anglais, une mission qui est de concevoir une doctrine tout à fait révolutionnaire. Comment pourrions-nous battre ou au moins arrêter les Soviétiques avec une armée beaucoup plus faible, mais dotée de projectiles atomiques tactiques, c'est-à-dire employés sur un théâtre d'opération? C'est là que Pierre Gallois se forge ses convictions sur la nécessité pour la France, sur l'impact de l'arme atomique, sur la transformation des opérations. Avec l'arme atomique, on peut arrêter toute forme d'action conventionnelle. La nécessité impérative pour la France, si elle veut compter aux côtés des Anglo-Saxons et face à l'Allemagne qui va être réarmée, de se doter d'une force nucléaire nationale. Et ça le lance dans cette action de presque d'apostolat, de lobbying, d'influence, d'apostolat nucléaire auprès des grands décideurs de l'époque. Et ça lui vaudra des inimitiés, car il parle beaucoup, il parle, il écrit. C'est une des raisons de son départ précoce.
Dans la chronologie, il y a un moment qui est très important, c'est l'année 56. Donc l'année 56, De Gaulle n'est pas encore au pouvoir, bien évidemment. D'ailleurs, quelle est son opinion à l'égard du général De Gaulle, on va dire du général De Gaulle de ces années 50?
Une question très intéressante. On pourrait penser rétrospectivement que Gallois a toujours été un fervent gaulliste. Certes, il a été proche du général De Gaulle au point que dans les années 60, il le rencontrait de manière tout à fait régulière. Il n'empêche qu'il n'est pas particulièrement proche du RPF à cette époque. Et surtout en 56, on est en pleine traversée du désert, rappelons-le. Pierre Gallois, comme 99% des Français, ne croit pas à un retour politique du général De Gaulle. Il y a un fameux sondage de l'époque. Les gens pensent que De Gaulle a dû passer la main. C'est un Américain, le général Neustadt, qui le convainc d'aller exposer à Charles de Gaulle ce qui est en train de se passer à l'OTAN et la transformation nucléaire de la doctrine défensive de l'OTAN. Pierre Gallois rejambe un petit peu et puis finalement, comme il a toujours été un militaire très obéissant, il obéit et il se propulse avec ses grands panneaux de bois auprès du général de Gaulle. Il est amené par un chauffeur, un GI, et une voiture de l'OTAN, et il a raconté cet épisode extraordinaire à plusieurs reprises, et je le reprends dans mon ouvrage.
Voilà, c'est l'entrevue de l'hôtel La Pérouse, 2 avril 1956, 22h, parce qu'à 22h on travaille, et vous présentez effectivement la chose. Alors, évidemment, ce n'est pas avec le recul que nous avons aujourd'hui, l'atome est une évidence, mais j'allais dire, on a oublié l'importance du débat que représentait l'atome et donc l'arme atomique et ce qu'elle pouvait constituer pour l'inconscient collectif. Parce que, a priori, on considère la chose comme un signe de guerre et l'idée de défense n'était pas acquise, et surtout avec une telle arme. Donc il a fallu se battre, et c'est ce que vous appelez le grand débat. Et c'est un débat qui a été vraiment violent sur le plan médiatique.
J'aime bien citer une formule de Gallois lui-même qui dit « Dans les années 50, 90% des gens qui comptaient étaient contre le nucléaire national. » C'est vrai que rétrospectivement, beaucoup, par exemple parmi les officiers, écrivains militaires d'aujourd'hui, se disent « Ah, au moins à l'époque c'était facile, tout le monde y croyait, on pouvait faire de la théorie stratégique, on pouvait défendre l'armement nucléaire de son pays, etc. » Et c'est totalement faux. Quand on se penche sur les circonstances concrètes de l'époque, le contexte moral et politique était au contraire tout à fait défavorable. Mais il y a eu des épisodes. Effectivement, comme vous le dites, ce qu'on a appelé le grand débat, c'est le moment où les choses sont devenues sérieuses. Je veux dire par là que, d'une part, les États-Unis sont devenus vulnérables à une frappe atomique, thermonucléaire, soviétique. C'était la grande nouveauté stratégique, car jusqu'à présent, Les États-Unis avaient, sans risque, entre guillemets, étendu le parapluie nucléaire sur l'Europe. Ils ne risquaient pas de représailles. À partir du moment où ils devenaient vulnérables, la question « le feront-ils ?» se posait. Et c'est ce qui a encouragé De Gaulle à avoir un nucléaire national avec le doigt national sur la gâchette, comme on aurait dit à l'époque. Et les Américains ont cherché à l'en empêcher, en tout cas l'administration Kennedy. Et c'est ce qui a nourri ce débat extrêmement virulent. On n'a pas idée de l'espèce de guerre civile intellectuelle qui s'est installée à l'époque entre les tenants comme Gallois de la dissuasion nucléaire indépendante et nationale, suivant De Gaulle, et des gens comme Aron qui expliquaient qu'il fallait tâcher d'avoir une sorte de conjonction avec les États-Unis, un peu comme les Anglais ont fait avec Nassau, et aussi essayer de construire une force nucléaire européenne. C'était la grande idée d'Aron. Leur amitié s'y est brisée. Et j'insiste sur ce point, c'est une époque de passion où vraiment les individus rencontrent la grande histoire et s'y déchirent. Ça ressemble un petit peu à 1940 et les débats sur l'armistice.
Mais avant ce déchirement, ce débat dont la virulence, je vous cite, va aller crescendo, il y a cette première étape et il y a surtout, au début des années 60, le traité de stratégie de l'âge nucléaire.
Oui, alors c'est tout à fait intéressant. C'est le premier vrai grand ouvrage de Pierre Gallois. Et c'est aussi son premier traité. Il a écrit beaucoup d'essais et deux ouvrages de très grande envergure pour considérer comme des traités. Cet ouvrage, Stratégie de l'âge nucléaire, qu'il a écrit, c'est amusant, à la demande de Raymond Aron. Raymond Aron lui disait « Ce que vous avez vécu à l'OTAN, la compréhension que vous avez des enjeux du nucléaire, vous devez l'expliquer aux Français. Il y a très peu de littérature en langue française sur ces questions. Il y en a pas mal aux États-Unis. Kissinger avait écrit un livre en 1957 et d'autres. » Vous devez écrire pour les Français. Aron tenait une collection chez Calman Levy, il lui a offert cette tribune, et il préface l'ouvrage. Quelques mois avant qu'il ne rompe, qu'il ne se déchire, il fait une préface très amicale et même élogieuse pour l'ouvrage. Et dans cet ouvrage, on trouve exposés les concepts fondamentaux de la stratégie nucléaire, les capacités de représailles, le pouvoir égalisateur de l'atome, l'importance de la surprise, l'instantanéité d'une action militaire. C'est un ouvrage important parce qu'il est un petit peu l'équivalent pour la stratégie nucléaire de l'ouvrage « La domination de l'air » que l'on doit au général italien Douai en 1920. Il pose les concepts théoriques fondamentaux sur lesquels ensuite on va édifier et faire évoluer des doctrines en fonction de l'évolution des techniques d'armement.
Ce qu'il y a d'intéressant également, c'est que il ne faudrait pas considérer Gallois comme, si vous me permettez l'expression, un monomaniaque. Il n'y a pas que l'atome. Gallois a également une vision globale. Et il ne faudrait pas croire que l'armée, comme ça, du jour au lendemain, s'est décidée à se concentrer que sur l'atome.
Non, il y a eu d'autant plus de débats, pour ce qui est de l'armée en tout cas, que l'armée française de la fin des années 50 a dû modifier ses modes d'engagement, puisqu'elle était engagée dans une modernisation conventionnelle. Elle est finalement amenée, notamment l'armée de terre, à se battre en Algérie, avec des modes de guerre contre-insurrectionnels. Et beaucoup d'officiers sont finalement hostiles à l'atome, dont ils ne pensent pas que l'armée française a nécessairement besoin, ou qu'en tout cas on peut se satisfaire de la protection nucléaire américaine.
Je voudrais que l'on s'arrête un peu sur l'homme, le personnage, et qu'on revienne à ce personnage qui touche à tout, qui a une culture immense. Est-ce qu'il existe une méthode Gallois pour convaincre son entourage? Ça ne se fait pas du jour au lendemain. On le voit bien avec la réforme des retraites aujourd'hui. Convaincre l'entourage de la légitimité ou non d'une réforme est une chose difficile.
Gallois est un homme qui a très très vite compris que dans nos démocraties, les affaires se jouent face à l'opinion publique et que c'est le véritable adversaire, c'est lui qu'il faut vaincre et défaire. Et c'est pourquoi il a toujours accompagné ses actions en faveur de telle ou telle doctrine stratégique, et notamment l'atome, par toute une sorte de préparation d'artillerie morale, par le lobbying dans la presse. Il faut savoir que c'est un homme qui a connu Pierre Lazareff, le fondateur de François, dès 1945, qui s'est mis à écrire dans de très nombreux journaux et revues. Il écrivait sous pseudonyme dans Combat, dans François, dans Interavia. Et j'ai calculé qu'entre 1945 et 1955, pour ne donner qu'un exemple, il a dû publier au moins 1000 articles de presse et de revues, ce qui vous donne une petite idée de ce qu'il a pu publier dans l'ensemble de sa vie. Il fait du lobbying auprès des parlementaires, il écrit des discours pour des sénateurs, pour la cause, il fait du lobbying dans les cabinets ministériels, il fait du lobbying auprès des hommes politiques, donc il y a toute une action souterraine d'influence extrêmement efficace qu'il a d'abord testée sur le plan quinquennal aéronautique de 1950. N'oublions pas que si nous avons aujourd'hui en France une aéronautique militaire de premier plan, c'est parce qu'elle a été entièrement reconstruite après 1945 par le plan quinquennal de 1950 qui réorganise totalement la production aéronautique française et que ce plan a été rédigé par Pierre Gallois.
Il expérimente, comme vous dites, Dassault.
Ce qui a lancé Dassault et ce qui lui a permis de connaître Marcel Dassault qui, à partir de 1953-1954, s'est mis à le démarcher pour le faire entrer dans sa société, ce qui a fonctionné en février 1957. Donc, il y a une méthode Gallois, une méthode d'influence extrêmement efficace. qui a quand même connu ses limites. C'est-à-dire que Pierre Galois, en tant qu'un petit peu comme seul, a été très efficace. À partir des années 60-70, quand il n'est plus dans les cercles institutionnels, ministériels, il a du mal à passer à la vitesse supérieure et il va trouver quand même un second souffle avec l'institutionnalisation de son influence et la création de l'Institut international de la géopolitique au début des années 80 qu'il cofonde avec Marie-France Garraud.
Mais il ne fait pas, vous dites, il ne suit pas notamment faire école. Il n'y a pas une école Pierre-Marie Gallois.
Je crois que c'est une limite de son action qui est due au fait... Alors, est-ce qu'il distingue d'ailleurs d'un autre homme d'influence ? Je dirais presque l'homme d'influence par excellence de cette époque, c'est Jean Monnet, celui que de Gaulle appelait l'inspirateur, dont l'article Raymond Aron lui a consacré un très bel article en essayant de comprendre les raisons de cette influence. Jean Monnet a toujours su s'entourer d'un certain nombre de jeunes gens ou de gens efficaces qui ont, pour lui, préparé des dossiers et des actions de lobbying, qu'on appellerait aujourd'hui du lobbying. Pierre Galois a eu cette capacité personnelle, mais agir avec d'autres, s'entourer, alors que lui-même était un créateur, il n'a pas vraiment su s'entourer et faire école. C'est une des limites du personnage, il faut en convenir.
Je vous sais admirateur, même disciple, on peut le dire, de René Girard, et donc achevé Clausewitz. Et vous arrivez à attribuer la théorie du bouc émissaire de Girard, bien connue, au personnage de Galois.
Effectivement, au-delà du travail de l'historien, à un moment donné de mon travail, j'ai cherché un petit peu des outils de compréhension un petit peu sociologiques. Je me suis demandé comment il se faisait qu'à certaines époques, on arrivait à transformer en vue de la prochaine guerre et d'une prochaine victoire les armées et comment dans d'autres circonstances, on n'y arrivait pas. Typiquement, la France de 1918 est victorieuse, puis elle s'effondre en 1940, puis en 1960, elle sait mettre en place une armée moderne basée sur le nucléaire. Quel rôle jouent les grands créateurs, les grands innovateurs stratégiques et qu'est-ce qui fait qu'ils réussissent ou pas ? Eh bien, l'histoire militaire est une sorte de cimetière, d'une certaine façon, d'une cimetière de grands créateurs. Le général Mitchell, un grand théoricien américain de l'aviation, Pierre Galois lui-même, Charles de Gaulle, finalement, qui n'a pas eu la carrière sur laquelle il aurait pu compter, beaucoup ont été victimes du caractère trop précoce, trop brillant de leurs idées. Et donc, j'ai fait cette théorie que l'armée, en tant que structure qui a besoin d'innover et qui a aussi des forces de résistance à l'innovation, a besoin de boucs émissaires. C'est-à-dire qu'elle va brûler, elle va détruire des gens qui vont polariser sa capacité d'innovation, qui vont se retourner un petit peu contre elle, comme a fait Pierre Galois. Et une fois qu'elle les aura détruits, elle aura détruit leur carrière, elle va finir par adopter leurs inventions. C'est ce qui s'est passé, d'une certaine façon, avec Mitchell aux États-Unis, avec Galois sur le nucléaire en France.
Nul n'est prophète en son pays, mais finalement, Galois, en dépit du peu de temps où il fut encore une fois près du pouvoir, eh bien, contredit la citation, est un contre-exemple.
Oui et non, puisqu'il fait un petit peu les frais de sa réputation de mouton noir, d'homme qui théorise trop, qui parle trop, qui écrit trop, qui est trop proche des pouvoirs, et c'est pourquoi il est en quelque sorte, enfin il quitte l'armée de l'air un petit peu en claquant la porte, car il a des problèmes avec sa hiérarchie. Et une des causes des difficultés qu'il a avec le chef d'état-major de l'armée de l'air de l'époque, c'est qu'il est trop voyant, en quelque sorte. Il est, selon l'expression qu'il a employée lui-même, en tout cas, il était devenu une sorte de mouton noir, par le fait même qu'il écrivit.
Il y a un élément que j'aime beaucoup dans votre ouvrage, c'est que vous raisonnez également sur le temps long. Et au fond, vous resituez cette œuvre de Pierre-Marie Galois dans une tradition française qui est ni plus ni moins que la tradition française de la stratégie des moyens. Et vous le mettez, oui, dans cette tradition des ingénieurs du roi.
Oui, effectivement, c'était pour faire écho à ce qui s'est passé au XVe siècle, quand il a fallu trouver les moyens, en investissant plutôt sur le canon, le capital, de défaire les Britanniques. Eh bien, d'une certaine manière, il y a une école technique au XXe siècle, c'est celle de Gaulle, avec l'armée de métier, le corps blindé, et c'est celle de Galois avec l'arme nucléaire. Si on n'a pas les moyens de l'emporter ou de survivre à une agression, en alignant les poitrines, hein, selon l'expression qu'il aimait bien employer, comme on l'a fait en 1914, il faut recourir à la technique, qui est une sorte de raccourci vers la victoire. Et à l'âge où la technique, enfin, où les armes sont devenues extrêmement meurtrières, la technique peut être un moyen d'économiser du sang humain. Et encore une fois, il voit dans l'école technique qu'il oppose à l'école de Foch ou à l'école d'Ardan-du-Pic, l'offensive héroïque, hein, vous savez, c'est aussi un tropisme dans la mentalité militaire française, eh bien, une école de la raison, une école qui doit permettre de maîtriser la guerre, de limiter la violence. Ce qui nous amène, et vous avez parlé de René Girard, au problème éternel de la guerre. Le problème éternel de la guerre, c'est comment je maîtrise, je limite la violence, j'empêche la violence propre à la guerre, de déborder vers des formes pathologiques, les formes pathologiques qu'on a connues au XXe siècle. La première et la seconde guerre mondiale, la guerre hyperbolique, la guerre qui dévore petit à petit toutes les ressources humaines, techniques, des nations jusqu'à l'autodestruction.
D'où l'appréciation de l'atome, ce sont vos derniers mots. L'évangile nucléaire est un évangile de la paix. Vous avez commencé sur un paradoxe, vous terminez sur un paradoxe.
Oui, Pierre Galois y était très sensible. Et puis, encore une fois, parce qu'il se rattache à cette école technique et il y a un humanisme. C'est le général Galois, c'est effectivement paradoxal, l'homme du nucléaire qui est un humaniste. Encore une fois, c'est lié à cette humanité qui fait qu'il souhaite limiter les guerres et aussi c'est lié à son attachement à la France et à sa permanence. C'est quelqu'un qui a été extrêmement sensible au fait que la France, en 2 siècles, a subi plusieurs invasions et a surtout un déclassement historique de sa puissance. Il impute ce déclassement historique à la guerre totale, dont la France révolutionnaire a été l'inventeuse, avec poursuivie et prolongée par Napoléon. Et il estime que la France est dans une période historique et elle doit refaire ses forces absolument. Et pour ça, il lui faut monter dans une sorte de donjon, c'est le donjon de l'arme nucléaire, se mettre à l'abri des aventures extérieures. Et l'atome lui fournit, de manière un petit peu miraculeuse, cette planche de salut. Mais c'est aussi une planche de salut pour l'humanité. Il estime que dans la géopolitique actuelle, les grandes aventures guerrières, on doit y renoncer. L'atome le permet. Et l'expérience prouve qu'à l'heure du monde plein, où le monde est politiquement entièrement occupé par des souverainetés nationales, les aventures militaires extérieures, comme le Vietnam ou la guerre d'Irak, finalement, sont perdues d'avance. Et qu'il faut. Les nations sont, d'une certaine manière, une école de mesure pour la géopolitique mondiale. Et les nations s'opposent aux empires ou aux tentations impériales que connaissent l'Amérique actuelle, de son point de vue, ou qu'a connu l'Union soviétique brejnevienne dans les années 70 et 80.
Eh bien, merci beaucoup, Christian Malice, pour ce témoignage et cette admirable biographie intellectuelle. On espère la suite, celle qui vous permettra peut-être de présenter donc, l'après 1994, si les sources et les débats sont apaisés. Donc, Christian Malice, Pierre-Marie Galois, Géopolitique, Histoire, Stratégie, un ouvrage paru chez L'Âge d'Homme, et également l'ouvrage qui, en tous les cas, le colloque, la publication des actes du colloque qui a reçu un prix de l'Académie des sciences morales et politiques, Guerre et manœuvre, héritage et renouveau, paru chez Economica. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et à très bientôt pour un nouveau numéro d'Un jour dans l'histoire.